Let's go. Salut tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Zoom sur l'intrapreneuriat. Cette semaine, on a quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. On est vraiment chanceux de pouvoir prendre les prochaines minutes puis discuter avec lui. Je parle du seul et unique Guillaume Brière, directeur général de la Cage Brasserie Sportive au Complexe des Jardins. Rien de moins, Guillaume, merci d'être là.
Ça me fait plaisir. Quelle introduction.
Ben écoute, c'est...
Pas rougir,
c'est vraiment la moindre des choses parce que c'est tellement un flagship, ce que tu disais avant qu'on commence à enregistrer. La Cage au Québec, le groupe en soi, c'est vraiment une référence. T'sais. Puis dans le monde de l'accueil, les touristes ici, Place des Arts, là, pour ceux et celles qui écoutent en ce moment, j'ai la vue sur la Place des Arts, magnifique, on est sur la terrasse, il fait super beau, on est content. Mais ça reste vraiment un point de contact important pour les touristes ici, fait que de pouvoir discuter avec toi un peu de la vision, de l'entrepreneuriat, de la gestion de projet, développement des affaires, un peu comment vous fonctionnez, je pense que ça va être super riche pour la gang qui nous écoute là.
Fantastique. Allons-y.
On y va, Guillaume. Peux-tu te présenter un peu? Je sais que c'est un peu cliché, là, mais c'est quoi un peu ton parcours là, pour que la relève puisse connecter avec toi un peu? Là?
Je m'appelle Guillaume Brière. Donc je suis ici à la direction de la Cage au Complexe des Jardins depuis 5 ans. J'ai travaillé dans une salle événementielle qui s'appelle La Sena dans le Vieux-Port de Montréal précédemment, qui appartient au traiteur Agnus Dei, la maison Carrier-Besson. J'ai travaillé là pendant 7 ans. Puis j'ai eu l'opportunité, honnêtement, j'ai vraiment grandi dans ce domaine-là en commençant un parcours là, à 18 ans dans des restaurants, à la maison hantée à l'époque et tout ça.
Wow. OK, toi, tu connais Frédéric Rochon-Noël assurément. Là.
Assurément. Écoute, okay. On arrive à son point-là où Fred, c'est mon mentor. Donc,
OK.
J'ai travaillé 7 ans la saison avec Fred. Puis c'est là que j'ai appris. Fred avait accepté de travailler là-bas à la Sena. Puis écoute, on est des très bons amis dans la vie. C'est aussi un de mes meilleurs chums.
Donc, tu le salueras pour moi d'ailleurs.
Parfait.
On a fait nos études ensemble à l'époque au bac à l'UQAM.
Ah, okay. Puis,
parenthèse hein, pour ceux qui nous écoutent.
Exactement. Puis il m'avait demandé, ça te tente-tu? Je travaillais dans des bars à ce moment-là, je faisais du service. Ça te tente-tu de faire le saut en gestion? Tu viens avec moi, puis je vais te montrer ce qu'il y a à apprendre. Puis, je suis allé avec lui, putain, on a fait 7 ans ensemble là-bas. Puis, m'a véritablement montré tout ce que j'ai appris là-dedans. Puis il m'a surtout donné des bonnes valeurs, puis les bonnes, tu sais, le sens du travail, le sens du travail bien fait, de ne pas accepter les demi-mesures, d'avoir des standards élevés, puis de développer une culture du dépassement dans ton entreprise. Ça, je dirais que c'est pas mal les choses que Fred m'a le plus apprises, ainsi que toutes les technicalités, toutes les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Là, je dois énormément là-dedans. Puis, ben, tu sais, de ne pas accepter les choses, de pas accepter les demi-mesures, de se re-questionner constamment puis de refaire nos processus. Fait que voilà, si on revient à la question de base, j'ai cheminé à la Sena pendant 7 ans là-bas. Puis après ça, j'avais fait un peu, Frédéric avait quitté, j'avais fait un peu le tour aussi. Puis le poste de directeur est affiché ici, c'est en construction. Je trouvais que c'était un projet qui était super le fun, un branding que j'aimais. La Cage, ça me représentait sur plein de choses. Je trippe sur le sport, je trippe sur la restauration. Je trouvais que c'était un fit parfait. J'ai appliqué, puis au bout d'un processus là, qui a super bien été, ben, j'ai eu l'emploi, j'ai fait l'ouverture ici.
Après les rénaux, là.
Écoute, c'était un magasin. Avant, c'était un magasin Le Château, ici.
Vraiment?
Donc,
oui,
ils ont tout enlevé ça. Il y avait un Le Château et un Sushi Shop, si je ne me trompe pas. Tout strippé ça, fait un restaurant au complet. Puis, on est parti après ça. Là. Et c'est drôle parce que ça va faire 5 ans. Donc, ce dimanche, ça va faire 5 ans qu'on est ouvert. Donc,
félicitations à vous autres et bravo à toi parce que j'ai que des bons échos, tu sais, des gens qui travaillent avec toi, qui collaborent avec toi, donc c'est super motivant. Puis je suis certain que ceux qui nous écoutent en ce moment vont dire c'est hyper motivant aussi, tu sais, parce que des fois malheureusement on lève le nez par snobisme sur les bannières, sur les grands groupes. Je trouve que c'est tellement important, on peut tellement apprendre, surtout dans un cours comme en entrepreneuriat, en gestion de projet. J'aimerais peut-être que tu nous précises, parce que la Cage fait partie de SportScene, qui est un groupe québécois. Je sais que tu peux pas tout nous dire en ce moment, j'invite les gens à suivre l'actualité, mais peux-tu nous parler un peu de SportScene, puis un peu toi, ton rôle, la Cage, SportScene?
SportScene, dans le fond, possède, évidemment, le plus connu, c'est la Cage, hein. Ce qui est le plus gros de ce que SportScene possède, c'est 40, une quarantaine de restaurants au travers de la province au complet. Il y avait plusieurs projets d'expansion avant la pandémie aussi qui ont été mis sur la glace, mais qui vont se poursuivre dans les prochaines années. Ils exploitent aussi la chaîne internationale PF Chang, donc l'exploitation au Québec. Il y en a un Il y en avait un dans l'Ouest, mais il y en a un à Laval encore maintenant aussi. Restaurant à l'avenue aussi, puis tout récemment, un restaurant chez Lionel, un à Boucherville, puis un à Laval. Mais évidemment, le gros de ce que les gens connaissent, puis je pense que notre président Jean Bédard, qui est assez connu, une figure connue, il est associé à la cage quand même. Là, donc,
et un peu aussi à la boxe à l'époque. Là.
À la boxe aussi. Donc, Sportsen a déjà aussi été le propriétaire d'Interbox dans le temps d'Éric Lucas, de Lucien Bouté, puis tout ça. Puis, ils ont décidé de vendre ça après ça. Je pense que Jean serait le premier à le dire aussi. C'est à un moment donné où la base, le core de ce qu'on fait, c'est de la restauration. Fait que là, quand tu commences à courir plusieurs lapins en même temps, on s'est reconcentré. C'est là que le rebranding a été fait, que Louis-François s'est joint à l'équipe, ainsi de suite. Donc, que le menu a changé, que le nom a changé de Cage au sport vers Cage Brasserie Sportive. Puis, à ce moment-là, on s'est concentré sur faire de la restauration.
Faire de la restauration, mais quand même dans un contexte de divertissement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, on a tendance à oublier que hôtellerie, restauration, tourisme, au final, on est quand même dans le divertissement. T'sais. Même sans prétention, c'est de dire bien, que tu viennes par affaire avec ta femme ou ta famille ou peu importe, tu vas être diverti au final, puis c'est ce que vous faites de bien. Hein?
Oui, c'est drôle parce que ça, c'est une réflexion qu'on avait quand j'étais avec Frédéric, justement, à la semaine. Puis on organisait des parties de Noël, c'était super le fun. Puis des fois, les deux, on s'accotait dans le cadre de port. Puis là, tu sais, ta soirée est terminée, il est 10h, le DJ est parti, le party est pogné. Puis là, on regardait ça, on disait, c'est quand même drôle, on fait comme métier. Tu sais, nous, on organise des parties, puis regarde, là, le monde, ils ont du fun, puis ils vont s'en rappeler. Puis nous, c'est ça qu'on fait dans la vie. On avait souvent cette discussion-là, puis ça m'a marqué pendant longtemps. Puis, moi, c'est ça que je fais. Tu sais, puis hier, c'était le premier match du Canadien. Puis je suis persuadé que plusieurs personnes qui ont eu du plaisir, qui sont venues ici, qui ont bien mangé, qui partagent des moments, le fun, des souvenirs avec leurs amis. Pour certains, ils n'étaient pas allés au restaurant depuis longtemps. Tu n'as pas été prendre une bière avec des amis, une dizaine de personnes pour aller écouter un match. Ça fait des fois 2 ans que tu n'as pas fait ça. Puis c'est ça. Nous, c'est ça qu'on fait. Dans le fond, on vend du plaisir. On essaie de le faire de façon... du mieux qu'on peut. C'est jamais parfait, mais on essaie de le faire.
Puis c'est pas cliché, je veux dire, tu sais, moi j'étais devant moi en ce moment, puis on voit vraiment la passion. Ça fait 20 ans que tu fais ça maintenant, là, mais de rien. Fait que c'est vraiment super. Puis juste peut-être pour continuer sur Sportsen, puis la cage, puis c'est ça qui a un peu piqué ma curiosité, puis la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, c'est que j'ai l'impression que vous êtes toujours en gestion de projet. La cage, ceux et celles qui suivent ça, qui fait peut-être l'épicerie, vous avez sûrement vu les produits en épicerie. Il y a le traiteur, il y a la cage pour emporter aussi, qui est peut-être une opportunité pendant COVID et tout. Donc, peux-tu nous parler un peu du développement des affaires, de l'entrepreneuriat au sein de la cage? On parlera peut-être pas de Sportsen, parce que c'est encore plus gros, mais la cage.
Je vais parler pour nous ici. Ouais, exactement. Disons, je pense qu'un des gros volets, c'est qu'on avait déjà pré-pandémie, là, qu'on n'avait pas le nom La Cage chez vous comme maintenant, on n'avait pas la plateforme, mais on comprenait. Je pense que toute l'industrie de la restauration tenait à se diriger vers autre chose. Et c'est possible d'acheter un mets déjà cuisiné à l'épicerie, au même principe que c'était possible de t'acheter un lunch. Je regarde le IGA ici au Complexe des Jardins, fait pratiquement autant de ventes avec ces mecs qui sont déjà cuisinés pour les dîners des travailleurs qu'avec l'épicerie comme telle. C'est quand même... Tout changeait, puis on comprenait que nous aussi, il fallait évoluer là-dedans un petit peu. Fait qu'on a lancé tout un bout traiteur, boîte à lunch, dîner d'affaires.
Ça, c'était-tu avant la COVID?
Avant la COVID, exactement.
Carrément, OK.
Wow. On avait déjà commencé à ce moment-là, ici au Complexe. Si on retourne à il y a 2 ans, 2 ans avant la COVID, donc on avait monté un plan d'affaires de dire parfait, il faut se diversifier, il faut trouver d'autres sources de revenus différentes. J'avais engagé une directrice adjointe qui avait comme principal mandat de faire du développement des affaires, d'aller rencontrer des groupes hôteliers. On a fait des soirées découvertes pour des hôtels ici pour leur montrer aussi. C'est plus ce que c'était il y a 10 ans, donc on avait invité tout le monde. On était très présents dans le milieu hôtelier, le milieu des affaires aussi pour tout ce qui était traiteur. La pandémie a frappé. Évidemment, il fallait survivre à ce moment-là. La cage chez vous, je dirais qu'elle a pris un envol encore plus grand. Puis dans le fond, une chance qu'on avait commencé à faire ça, parce que je sais pas où on serait sinon à ce jour. Là, je suis pas dans le secret des dieux du groupe Sportsen, mais disons qu'une chance qu'on avait tout ce volet-là. Une chance qu'on avait commencé à faire du take-out aussi. Une chance qu'on avait tout commencé ces parties-là avant. Puis la cage chez vous, maintenant, regroupe tout ça. Tout ce qui est traiteur, boîte à lunch, des kits prêts à cuisiner, donc que vous assemblez chez vous, un petit peu comme Good Food font, mais à la version cage pour manger les repas de la cage à la maison.
Super intéressant. Fait que toute cette cuisine de production-là, est-ce que c'est fait sur place ou à l'extérieur?
Ouais, c'est fait dans chaque succursale.
Okay. En fonction de l'adresse de livraison?
Oui, exactement. Donc, les gens vont choisir aussi, lorsque tu vas sur le site La Cage chez vous, les gens vont choisir de quel lieu ils veulent que ça vienne. Quand on fait affaire avec nos autres partenaires, que ce soit Uber, DoorDash, Skip, ben eux, c'est l'algorithme en fonction de ton adresse qui va décider quelle succursale va faire. C'était une façon de faire travailler nos cuisiniers aussi durant la COVID. Mais c'est aussi une bonne façon de permettre d'avoir un maximum, de grossir nos équipes en cuisine si on veut aller. Si on veut être la référence, on veut continuer à avancer, ça prend du monde en cuisine, ça prend des gens qui sont dédiés. On avait lancé un programme, ben La Cage avait lancé un programme que j'ai vraiment trouvé qui était super intéressant, moi justement, en association avec l'ITHQ, où on formait des cuisiniers à l'interne à Boucherville. J'ai eu l'annonce ce matin que ce programme-là était relancé, donc à partir de la semaine prochaine, ils vont former d'autres cuisiniers encore. Là. Souvent, les gens ne sont pas au courant, mais tout est fait ici. Hein. Donc, on prend les produits, on les transforme, on fait nos vinaigrettes, on fait nos sauces, on transforme nous-mêmes, on marine nos poulets. Donc, rien arrive congelé, puis rien arrive...
Ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas assez, on dirait.
Ben, exactement, puis c'est drôle parce que pour nous, c'est une évidence quand tu as les deux maintenant tous les jours. Pour moi, c'est une évidence, mais notre département marketing nous rappelle constamment que faut continuer à en parler, faut continuer à le dire. Pour des gens, c'est pas clair. Pour nous qui sommes dedans à tous les jours, c'est une évidence. Je vois les gens travailler en cuisine à tous les jours. Quand j'arrive le matin, je vois les commandes. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tout le monde qui a encore compris qu'on a fait un rebranding, qu'un changement majeur dans nos cuisines il y a 4-5 ans de ça.
Fait que est-ce que pour toi, quand tu es arrivé en poste il y a 5 ans, tout ce qui est un peu produit en épicerie, puis je reviens là-dessus, ouais. Parce que Sport 5, c'est beaucoup développé dans les dernières années par des acquisitions. Mm-hmm. L'avenue, là, je suis certain que tout le monde qui écoute en ce moment, vous savez c'est quoi l'avenue? Là? C'est le restaurant sur Mont-Royal où il y a toujours des files pendant 2 heures pour bruncher. C'est excellent.
Ouais.
Essayez les pancakes carottes, le gâteau carotte.
Ouais,
et sur Notre-Dame aussi, ouais. c'est je pense qu'il y a deux. Peut-être qu'il y en a trois.
Ouais, il y en avait une à Boucherville qui malheureusement n'a pas passé au travers.
OK, okay. Ben, il faut faire des choix.
Exactement.
Chez Lionel avec le chef Yann Perrault à l'époque, il a parti ça, etc. Donc, beaucoup par acquisition, mais aussi, on le voit, ce que tu me disais pré-entretien, tu crois beaucoup dans le développement vertical, tu sais. Puis tu m'as dit quelque chose avant qu'on commence, que toi, tu es un peu un exemple de ce que La Cage aimerait tenter de pur produire. Ouais, genre, je ne sais pas trop comment le dire.
C'est un exemple d'une erreur du passé. Donc, probablement que quand ils ont ouvert la succursale ici, d'ouvrir un flagship au centre, c'est leur retour au centre-ville en plus. Probablement que dans ta culture d'entreprise, il aurait aimé ça avoir un gestionnaire prêt à prendre la relève, puis pas être obligé d'aller à l'externe. Donc moi, je venais de l'externe, j'ai appliqué sur cet emploi-là. Je pense qu'il aurait sûrement apprécié d'avoir quelqu'un à l'interne. Pour plein de raisons, je ne serais pas là, je ne pourrais pas répondre sur ce qui s'est passé, mais c'est un des mandats qu'on se donne ici. Puis c'est drôle parce que Jean-François, notre vice-président, nous dit souvent, il dit « connectez avec vos jeunes ». Il dit « des fois, votre hôtesse de début vingtaine, ça va peut-être être notre directrice dans une couple d'années ». Puis c'est drôle parce que moi, je me replace à quand j'ai commencé et que j'étais boss boy à 19 ans. Je tripais sur ce milieu-là. Puis j'aurais donc aimé ça qu'un directeur me dise à un moment donné, « Viens, je vais te montrer comment je fais un horaire puis je vais te montrer comment ça fonctionne ici. Je vais t'expliquer mon labor cost, comment ça. » J'aurais tellement apprécié ça. Fait qu'on essaie d'en donner un maximum à ces gens-là. Moi, les gens qui me disent, surtout ceux qui étudient dans ce domaine-là ou qui me disent, moi, j'ai vraiment un intérêt pour faire ça dans la vie, mais tant mieux. Moi, je leur cacherai pas mes chiffres. Je leur cache pas. La réunion de gestion qu'on fait le mardi matin est ouverte à tout le monde. Je sais pas si je suis pas accueillant. Personne ne vient jamais à part mes gestionnaires. Mais
je pense que l'appel est lancé à tout le monde.
Exactement. Donc, mardi prochain, c'est un rendez-vous. Mais le plus qu'on peut leur en donner, le plus qu'on peut développer des gens, je pense que c'est une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir de dire avoir un de nos gérants ici est devenu directeur dans une autre succursale, un de nos sous-chefs est devenu chef dans une autre succursale. Ça, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise, c'est ultra important. Puis moi, si j'avais pas eu la chance moi-même, je prends mon exemple, si Frédéric m'avait pas dit un jour, on va s'asseoir ensemble, je vais te montrer comment il fonctionne l'état financier, je vais te montrer c'est quoi nos objectifs, je vais t'expliquer comment on fait pour s'y rendre. Je parlerai pas avec toi aujourd'hui, puis j'aurai pas cette opportunité-là de travailler là-dedans, fait que je me dois aussi de le faire un peu avec tout le monde.
Est-ce que tu peux partager certains chiffres avec nous que tu m'as dit en pré-entretien par rapport, par exemple, quand tu es arrivé, tu as eu la chance de faire un plan sur 3 ans,
ouais.
Passer de X millions de chiffre d'affaires à X millions, je sais pas si on peut dire ces chiffres-là.
Ben, ou... je pense, ouais, on y va, le but, ça te rend là. on était dans les premières années, là, c'est un restaurant qui faisait environ 6 millions de chiffres d'affaires, puis comment l'objectif ultime, ça a toujours été de se dire on veut se rendre à 10, comment on fait pour se rendre à 10. Puis c'est là qu'on a développé l'idée du traiteur, d'avoir une personne en charge qui allait faire des ventes externes. Beaucoup de tours à bureaux ici au complexe Desjardins, tout un système de livraison, donc on avait une entente avec Desjardins pour livrer dans les tours. Nous, c'est pas compliqué, tu nous dis à telle heure tu veux tel truc, on va se rendre directement. Un des points que les traiteurs, pour avoir travaillé dans des compagnies de traiteurs avant aussi, toute la livraison était difficile parce que avec le trafic à cette heure à Montréal, tu veux un repas à 11h30, écoute, c'est compliqué, ça arrive souvent en retard. Nous ici, moi je te garantis, on prend un petit chariot roulant, on s'en va sur ton étage, je te garantis que ça arrive à l'heure.
Chaud.
Fait que là, exactement, chaud, je contrôle la qualité, je contrôle la livraison. Fait que c'était un projet ça, qui allait super, super bien avant la pandémie. Je suis persuadé que ça va revenir aussi là, par la suite.
Mais ça, j'aimerais qu'on revienne sur ce genre de projet-là, comprendre un peu la mécanique à l'interne de comment ça fonctionne pour réfléchir à l'idée, convaincre tes patrons, mobiliser ton staff, parce que là, ici, tu as un resto 6 millions d'opérations à rouler de bouffe, tu sais. Mm-hmm. Là, il y a à peu près, il est 16h15, puis il y a bien du monde, puis pour toi, c'est tranquille, tu sais.
Ouais.
Fait que tu as déjà tes opérations, c'est déjà un job en soi, mais comment tu fais mécanique pour, OK, là, on va optimiser, là, ceux qui nous écoutent, ils vont comprendre les ressources molles, un peu celles qui sont plus ou moins utilisées.
Ouais.
Bref, comment tu as structuré cet exemple-là de... pour emporter, là,
la première chose, c'est de les convaincre qu'ils ne perdront pas d'argent, ça ne va rien changer. C'est des gens qui, de toute façon, ici...
Tu parles de tes patrons?
Non, mais les employés.
Okay,
la première
chose,
c'est de convaincre les employés parce que tu veux que la meilleure publicité que tu peux faire, c'est le bouche-à-oreille. Les gens viennent ici, « Hey, avez-vous essayé? On va vous donner un flyer. Avez-vous essayé? Allez voir notre site. On fait des choses vraiment le fun comme traiteur. J'y ai goûté. On leur a donné plein de plats à nos serveurs. On dit, part à soir avec un kit de tartare, tu vas goûter,
cool,
voir que ça a l'air. Assemble-le chez vous pour voir comment c'est. Tu vas voir que c'est le fun à faire. Prends-toi une petite bouteille de vin avec ton chum, puis après ça, tu vas pouvoir en parler. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos employés.
Mais c'est fou, ça. Puis, je veux pas que tu perdes ton idée, parce que
c'est
vraiment intéressant, mais je trouve ça fou qu'un groupe comme La Cage, hyper structuré, du moins du point de vue extérieur, un projet comme celui-là, tu es allé ici, à La Cage, du complexe des jardins. Tu l'as développé comme ça, à la voix comme je te pousse, mais stratégiquement, dans le sens, goûte, reviens, fais des commentaires, puis comme ça, tout le monde grandit ensemble, quoi.
Ouais, exactement. Puis ça vient avec la confiance. Là. Honnêtement, dans la structure qu'on a, là, Jean-François, notre vice-président d'opération.
C'est Jean-François qui?
Jean-François Dubé.
Dubé.
Il est vraiment très, 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 très bon. Il croit en nous. Puis moi, j'ai eu l'opportunité, là, j'ai un directeur de territoire aussi qui chapeaute le restaurant et plusieurs autres ici, René Labbé, qui lui est... travaille beaucoup as-tu un plan, je te fais confiance, vas-y, puis je vais te backer après ça. Puis moi, c'est ça qui m'a permis de... Je peux pas parler pour les autres, j'ai toujours travaillé avec René depuis le début. Je m'entends très, très bien avec, j'ai sa confiance. Fait une fois qu'il se rend compte, tu lui montres si je reviens à l'idée comment tu faisais, on convainc notre personnel ici, parce que ça va être nos ambassadeurs. On s'assure qu'on a une structure de gestion qui est assez forte pour... La dernière chose que tu veux, c'est de lancer un projet et que ce que tu faisais bien s'écroule. Donc, on s'assure de garder notre... Peu importe ce qu'on ajoute autour, 80% de la business va tout le temps se passer un petit peu dans notre salle à manger. Il ne fallait pas que ça s'effondre. On s'assure d'avoir une structure assez forte là. J'ai monté un plan. J'ai dit, on s'en va là. On va faire des embauches pour en arriver là. Parfait, c'est bon. On s'updatait à tous les mois. OK, c'est bon. On monte le projet. Puis après ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que ici on a l'opportunité, comme c'est un restaurant qui fonctionne bien, c'est un restaurant qui est assez flagship pour le réseau, d'essayer des choses.
Okay.
Puis après ça, on s'est dit, on va le réessayer. Ça me fait penser, on avait eu une idée, là, ça m'a juste fait flasher sur une idée. Il y a 2 ans, durant le festival de jazz, on s'était dit, écoute, on n'est pas capable de servir tout le monde. T'sais, ça fonctionne pas. Il y a un trop gros line-up. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent quitter. Il y avait une heure d'attente. C'est-à-dire, on va s'installer un petit kiosque dans l'entrée avec des salades, des trucs déjà tout faits, que les gens qui n'ont pas le goût d'attendre peuvent dire, moi, je prends une salade, un wrap, puis une bière en canette, puis je m'en vais. Puis on a fait ça avec des meubles que j'avais achetés chez Ikea. Okay. J'avais griffonné un projet, puis René me dit, hey, vas-y, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas super bien fonctionné pour plein de raisons. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui venaient ici voulaient manger un repas chaud assis. Bref, ça n'a pas super bien fonctionné. Mais bon, on a fait un post-mortem, on a analysé ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ça fait 4 ans de ça. Puis c'est un peu à la base de ce qu'on fait. Là, on fait du traiteur dans des bureaux. On l'a fait un peu à la va-vite comme ça, mais ça nous a inspiré sur qu'est-ce que les gens aiment, c'est quoi le packaging qu'on utilise, c'est quoi. Puis maintenant, il y a un bout de la cage chez vous dans les bureaux, nous, que c'est parti de ce projet-là.
Puis en même temps, ce qui est cool, c'est que si tu as voulu pousser l'idée comme ça, c'est que j'imagine ici, il y a comme une culture d'innovation, de créativité, de dire, ouais, ben, je vais essayer de quoi. Puis ce que René Labbé dit, ben, vas-y, essaie. C'est intéressant, ça.
C'est surtout le climat de confiance, de dire, tu sais, que tu sens que les idées sont les bienvenues aussi, que tu vas te faire juger. Si on décide, on fait un brainstorm, mais toutes les idées sont bonnes. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ça va dans l'ouverture de nos patrons, puis je dirais même dans la culture, là, sans essayer de fendre l'entreprise
mais
ou quoi
quand
que
même,
ce soit.
Ouais.
Mais tu sais, je regarde, on a un appel conférence avec tous nos vice-présidents qui nous parlent, soit du marketing, des ressources humaines, des opérations. À tous les jeudis.
Tous les jeudis.
Puis,
mais ça, c'est pas un appel à tous, par contre. Ça, c'est les mardis pour tout le monde.
Oui, c'est ça, exactement. Ça-là, non, n'est pas un appel à tous. Et puis, je me souviens qu'ils se rendent disponibles. Okay. Une entreprise qui est quand même assez grande, tu as le numéro de cellulaire de tous les vice-présidents, tu peux y parler. Ben, ça crée un climat. Notre président, Jean, est quelqu'un qui est très. Il était ici il y a deux jours, il m'a texté, il m'a dit ta gang est le fun. Ça crée une proximité, ça te met en confiance aussi de dire que si tu as un projet, tu ne vas pas te faire retourner. Si c'est bien ficelé, si c'est bien fait, puis ça fait du sens financièrement, ben, tu vas-y, présente ton projet. Fait que ça, je trouve que cette culture-là, honnêtement, pour moi, je ne travaillerai pas dans une autre entreprise juste pour ça. C'est le fun, ça te challenge, ça te demande de dire, je vais réfléchir à ce que je pourrais faire. Le terrain de sable est super grand. Restons dans les limites. On veut pas. Faut garder le branding pareil, là, tu sais. Mais il y a de la place pour s'amuser en masse.
Sans le rendre trop romantique non plus, est-ce que. Puis ça, on s'en est pas parlé en pré-entretien. Fait que, tu sais, sois bien à l'aise de la réponse. Mais là, tu parles de beaucoup de projets, mettons, qui viennent de toi ou du brand. Mais on sent qu'il y a une espèce de bottom-up, tu sais, où tu peux arriver avec des idées, mais tu es quand même le DG. Est-ce que tu as l'impression, en tant que ton staff, tu me disais, vous êtes soit une centaine, là,
ouais,
juste ici, en ce moment-là.
Ouais.
Ça peut même monter bien plus en temps normal, entre guillemets.
Ouais,
as-tu l'impression que ton staff, ton équipe, sentent aussi la même chose que toi en termes de s'ils ont une idée, un projet, ils peuvent venir te voir?
Ouais, beaucoup.
As-tu un exemple, peut-être un peu?
Non, mais je vais donner un exemple. On a des stations, là, que ce soit à l'hôtesse ou que ce soit au bar-service, puis je. Pendant des années, on s'est dit « Parfait, je vais organiser le bar-service. » Donc, on prend un gérant qui, lui, travaille jamais là, mais va décider « À partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se faire. » À un moment donné, ça ne marchait pas. Puis là, il faut que tu essaies de convaincre l'employé que ça va être bon. Avec, je ne tomberai pas dans des généralités sur les milléniaux et tout ça, mais c'est très, très difficile maintenant avec ces employés-là. Fait que la meilleure façon de régler nos problèmes qu'on avait à des postes spécifiques comme ça, c'est de s'asseoir avec les 3-4 piliers de ce département-là. Et dire, moi, ce que je veux, c'est ça. Que ça soit propre, organisé, puis que le visuel client soit impeccable. À partir de maintenant, Tommy guide, là. Vous allez me pitcher toutes vos idées, vous allez faire ça, puis j'écoute vos idées, puis je vous écoute. Il faut que tu recrées un petit peu, moi, ce sentiment que j'apprécie, que mes patrons, ils me laissent de la latitude. Ben, ces gens-là, ils l'apprécient autant, hein, puis. Puis quand t'es dans un cubicule, comme je prends l'exemple de l'hôtesse, que tu gères des line-up comme l'été ici, c'est sûr qu'elle sait plus que moi où le téléphone doit être placé, puis comment l'ordi, est-ce que l'ordi ça y prend un clavier ou non, ça me sert à rien de bien poser ça, je vais me battre à essayer de la convaincre. Je prends leurs idées, on a une plateforme là, que tous nos horaires sont gérés là-dessus, là, qui s'appelle Planifico, qui est vraiment très très bonne. Belle plug. Non, mais c'est vraiment super bien fait. Puis dessus, tu peux avoir des groupes de discussion avec tous tes départements. Et là-dessus, on va souvent leur pitcher des trucs.
Ça, c'est québécois ou c'est,
ouais, c'est québécois,
ça,
ouais.
C'est développé pour la cage ou c'est
il y a plein d'autres gens qui peuvent l'avoir aussi. C'est un super partenaire à nous parce qu'ils font de l'innovation quand on leur demande des trucs.
Okay.
Fait que c'est vraiment bon. Fait que tu réussis à parler à des sous-groupes là-dedans, c'est super facile de leur dire, écoute, on se peut-tu se rencontrer demain, arriver toutes 15 minutes avant, je voudrais faire un changement par rapport à ça. Puis les gens sentent qu'ils sont impliqués, les gens sentent qu'ils sont...
c'est cool.
Qu'ils sont, j'essaie de recréer le même climat de confiance pour dire tes idées que mes patrons me donnent, dans le fond, envers les employés. Puis des fois, ça va partir complètement à gauche, il faut ramener ça un petit peu sur le droit chemin.
C'est ton rôle aussi.
Mais ouais, exactement. Puis c'est ça un petit peu, c'est un peu ça qu'on essaie de faire.
Vraiment intéressant, Guillaume. Je rappelle à tous, on est avec Guillaume Brière, hein? Guillaume Brière, DG, La Cage Brasserie Sportive,
ouais,
Complexe des Jardins. Guillaume, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi et de ton organisation en termes de temps. TDG, donc tu as les opérations, tu me disais que avant COVID, tu avais 17 gestionnaires en dessous de toi.
Allant de l'assistant gérant jusqu'à... on compte la cuisine aussi, les sous-chefs, les chefs d'équipe, tout ça. Là, ouais.
Donc, tu sais, c'est, je veux dire, c'est de la gestion, déjà gérer l'équipe, tes opérations, puis ton plan de match aux 3 ans. Mm-hmm. Comment tu fais pour gérer ces idées d'innovation on the side, ces projets entrepreneurs, mais à l'intérieur?
Ouais. Ben, la première chose à faire, c'est de tirer une ligne, puis de bien établir dans ton organigramme qui est aux opérations, puis qui est au R&D. Puis je donne un exemple, j'avais quelqu'un que j'adore, William, qui était mon directeur adjoint. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui, là, il a décidé de faire autre chose suite à la pandémie, mais William, c'est un gars qui est extrêmement, extrêmement fort en opération. Très, très bon, très, très organisé, une vision de la restauration très, très bonne. Il a travaillé à la Cena avec nous avant.
Tu l'as fait rentrer ici?
Oui, exactement. Il a commencé ici, puis William, très, très fort en opération, très, très orienté pour optimiser les processus puis tout ça, mais en opération. Mais si on lui disait, écoute, là, à partir de maintenant, je veux changer, ben on va mettre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on va mettre des fleurs sur les tables. Non, non, ça va prendre de la place, on va perdre du temps, on fait pas ça. C'était impossible d'amener des changements parce qu'il était orienté sur comment on fait pour opérer le plus vite possible dans le meilleur temps, dans les meilleures ressources. Puis quand on a engagé Mélanie qui faisait du développement des affaires, elle était aussi en charge de développer tous nos processus de service.
OK.
Puis, moi, je me gardais le rôle de tampon entre les deux. Donc, Mélanie arrivait avec une idée. « Hey, on pourrait faire ça. J'ai déjà vu ça. J'aurais ça. Ça serait vraiment cool. » Ça clashait avec William. Il disait « Non, c'est impossible. On n'aura pas le temps. » J'essayais, moi, de les asseoir ensemble. De trouver une façon pour qu'on soit capable de faire ça. Fait que, une fois que tu as bien séparé tes équipes, tu as ceux qui opèrent, qui trouvent que les gens du développement sont utopiques et disent des choses pas possibles. Puis, tu as ceux du développement qui disent que les gens des opérations veulent juste avancer. Une fois que tu es capable de les mettre ensemble, ces deux-là, ben honnêtement, ça arrive à des compromis parfois, mais à des résultats qui sont vraiment, vraiment fun. Si tu as juste des gens d'opération qui veulent optimiser, tu vas stagner à un moment donné parce qu'on pense juste aux inconvénients que ça apporte. Puis le monde d'R&D, eux, pense à tout ce qui va être bon pour le client, ce qu'on peut faire de plus. Fait que ça devrait un certain temps comprendre ça. Là. Mais quand j'ai réussi à bien séparer ces branches-là dans mon équipe, honnêtement, là, ça l'a fait évoluer le projet, puis ça m'a donné moi aussi. C'est stimulant à faire aussi. Quand j'essayais de faire ça avec lui,
c'est vraiment un bon conseil, tu sais. C'est ce que j'allais te demander dans à peu près 5-10 minutes là, ouais, vers la fin. Un conseil, tu sais, pour la relève, pour la jeune génération. Mais là, tu en as déjà droppé un maintenant. Mais commence à y réfléchir déjà pour la fin.
Ça va me laisser encore 5-10 minutes pour réfléchir à un conseil.
Fait que, tu sais, c'est sûr que ce qui frappe quand on arrive sur place, tu sais, puis encore, c'est peut-être que vous entendez certaines interférences. On est sur la terrasse, hein, ouais. Extérieure, c'est normal. Fais ça à la bonne franquette. Ça frappe quand on arrive, on voit les produits qui sont faits. T'sais. On voit peut-être les épices, les produits, des boîtes, des produits congelés. Mm-hmm. Ça, trouves-tu que c'est une force pour la cage d'avoir fait cette intégration-là de spin-off de produits à l'interne? On dirait que c'est vraiment des cross-selling partout.
C'est une super grande force. Je suis pas sûr qu'on a trouvé encore exactement la position parfaite avec ça. Je pense que c'est très... très relatif à chaque marché aussi. Je vous donne un exemple, si tu es dans une banlieue que tu accompagnes, que tu sers des gens qui souvent vont retourner chez eux, pour alors plus facile de vendre un produit d'épicerie à la fin. Ici, c'est sûr que si tu envoies l'OSM après ça avec ta boîte d'ailes congelées, peut-être que tu vas trouver ça un peu plus... chaque marché est différent, chaque marché a des opportunités, mais oui, c'est des produits qu'on est fiers d'avoir avec nous, puis que c'est le fun que tu puisses avoir au restaurant aussi. Là. Mais encore une fois, je très, très honnêtement, là, puis je le dis avec toute la l'honnêteté du monde, je suis pas certain qu'on a trouvé exactement comment le faire vivre au travers de notre restaurant.
Ici, tu veux dire?
Oui, exactement. Complexe, ici, ben, je veux pas parler pour les autres. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui me diraient non, nous, ça va super bien. Ouais. Moi, ici, je suis pas sûr que j'ai trouvé l'angle parfait pour le faire vivre. Beaucoup de gens aussi qui viennent le midi avant d'aller au bureau.
C'est vrai.
Difficile d'y vendre un produit. Difficile de le convaincre d'acheter une mayonnaise pour s'en aller au bureau un petit peu. Fait que...
Des touristes, peut-être.
Oui, touristes, exactement. Moi, je dirais qu'on avait beaucoup de demandes aussi sur des produits dérivés, brandés, un chandail, des casquettes, des trucs comme ça. Fait que ça, on avait eu du succès avec ça. Ça sera à voir, mais c'est un des projets que je cherche à faire évoluer. Je parle de produits d'épicerie parce que ça stagne ici un peu. Fait que c'est pas...
Tu sais, tu parles de chandail, tout ça. Est-ce qu'il y a des projets qui sont menés par Sport Simple, qui sont imposés des fois dans la succursale, ou tous les projets viennent par exemple de toi ou
non,
de tes collègues?
Non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je pense que il y a des choses qu'on fait ici qu'on le sait qu'on teste parce que ça va éventuellement venir dans le réseau. Je donne un exemple présentement. La cage a commencé à faire de la pizza à Boucherville. Donc physiquement, c'était plus facile d'instaurer le four. Toute faite de maison, vraiment un super bon produit. Je l'ai vu hier pour la première fois. Il y a des trucs comme ça. Il faut que tu acceptes quand tu es un des... Quand tu es dans les plus gros restaurants d'une chaîne, tu acceptes qu'il va y avoir des projets qu'on va essayer, des choses qu'on va essayer, qui des fois déboucheront à rien. Mais ça fait partie du... Ça fait partie du challenge, ça fait partie, nous on en parle beaucoup au staff ici, on va essayer des nouveaux uniformes la semaine prochaine, on va essayer ici, on va essayer ça, donnez-moi vos feedbacks, on va le transférer aux ressources humaines, ils ont besoin d'avoir vos opinions. Tu sais, je parlais de Planifico, notre application, on en a testé 3-4 avant ça ici, okay, pour gérer nos horaires. Ça vient avec, puis très, très honnêtement, je pense que tout le monde aime ça ici, ils sont super ouverts au changement, ils sont super ouverts. C'est plaisant de voir aussi que tes commentaires vont être les bienvenus, ouais, par la suite, fait que t'aimes aussi bien... Je préfère, tu me dises que les trucs sont imposés, fortement recommandés, mais je préfère qu'on me demande mon opinion après ça que de l'avoir imposé c'est complètement.
Tu sais, si on se projette un peu dans le futur, là, on parle à Guillaume Brière, je sais pas, en 2000, allez, même juste en 2030, là, même juste dans 8-9 ans, tu sais. T'as-tu une vision de ce que la cage pourrait devenir? Je te donne un exemple. Là. Avec un projet intrapreneurial, OK? Mm-hmm. Par exemple, c'est peut-être un peu cliché, mais vous décidez de faire un food truck, spin-off food truck, qui se promène d'événements de cage au sport. Ça sort du resto, ça sort, c'est une autre planification, une genre d'expertise un peu complémentaire, mais différente. C'est juste un exemple, mais tu vois où toi, la cage, avec quelque chose qui sortirait peut-être des murs, tu sais?
C'est une bonne question. Puis,
pour augmenter le chiffre d'affaires, pour mobiliser les troupes, optimiser les ressources molles, tu sais, tout ça, là.
Ouais, écoute,
dans les avions? Non, je t'ai
Mais on en a des projets ici. Après ça, il y a plein de pourparlers. Il y a plein de trucs qui sont dans les airs.
Tu peux
aussi
peut-être pas dire non plus.
Je me garderai de... C'est pas moi qui fera des annonces. S'il y a des annonces à faire, je les laisserai à mes patrons. Puis
Mais c'est sûr qu'il y a... Toi beaucoup... ici, là, tu sais. On jase.
Ouais, on nous ici, ben, tu sais, veux pas... Tout le volet traiteur, pour nous, je pense que c'est l'enjeu, le premier. C'est quelque chose qui s'en allait super bien avant la pandémie, que oups, ça l'a pris le bord un petit peu. C'est le plus facile à faire ici. La clientèle, elle est captive. Moi, je pense, si j'avais, là, disons, un guess à faire aussi, là, je regarde beaucoup ce qui se passe dans le milieu hôtelier. Plusieurs hôtels sont en train de laisser tomber un petit peu leur volet restauration, des dépenses immenses, plein de trucs comme ça. Maintenant, avec tout ce qui est application, tu sais, quand je vais en voyage, moi, si des fois je suis dans ma chambre d'hôtel, t'ouvres ton application Uber, puis ils vont te donner autant tout ce qui se passe autour. Fait, je pense que probablement que dans l'avenir, un peu, plusieurs hôtels vont laisser tomber leur restauration. Fait que cette offre-là est super bonne pour nous. On a un hôtel qui est adjacent ici aussi, avec lequel on faisait plusieurs affaires. Ils sont présentement en grève, là, donc on leur souhaite un règlement, autant pour les employés que pour l'employeur. Là, on leur souhaite un règlement qui va faire l'affaire de toutes les parties le plus vite possible. Mais il y a ça, je te dirais que c'est un projet le fun qu'on a commencé à faire ici aussi, dans un projet justement qui me tentait. Est-ce que ça me tentait ou c'était imposé, je ne sais pas, fortement recommandé, mais qu'on a fait, qui fonctionnait super bien ici. On a commencé à faire des brunchs aussi avant la pandémie. Moi, ça, je te dirais que je pense que c'est une offre qui va être le fun, parce que du brunch, d'ambiance, il n'y en a pas beaucoup. T'sais.
C'est vrai.
Des événements sportifs, il y en a quand même. Tu regardes l'été, Formule 1, Tour de France, match de soccer avec le décalage horaire.
Exact.
Moi, je pense qu'il y a un gros créneau là-dedans.
Jeux olympiques.
Justement, il y a plein de trucs. Il y a un gros créneau. Combien de fois tu vas au restaurant le matin, tu as moins le goût de jaser un peu, d'avoir des écrans comme ça, profiter de ce qu'on a. Moi, je pense que ça, c'est des super bonnes opportunités pour les prochains.
Puis tu me parlais tantôt aussi que vous aviez commencé, pré-pandémie, à organiser des petits déjeuners, un peu conférences.
Oui, exactement. Écoute, ça, encore une fois, comme je te disais, c'était avant toute l'ère de Zoom et de Teams. Il y avait une très, très grosse demande au centre-ville ici. L'hôtel ne fournissait pas pour les salles. Rien de trop gros. Je parle pas de congrès. Je parle de réunions d'affaires 10 à 15, 20 personnes.
Associations professionnelles, sectorielles.
Donc, on possède ici tous les écrans, les micros. Tout est audiovisuel est là. Les tables sont là. On a des cuisiniers. Encore une fois, tu disais utiliser des gens. On est capable de faire des déjeuners aussi. On est capable de faire des trucs, un buffet. Fait qu'on avait déjà signé deux contrats avec Desjardins qui débutaient la semaine suivante que tout a shut down. Je pense que ça avait c'est un créneau qui est le fun. Dans le fond, là, l'idée, c'est de dire, nous, si on peut utiliser notre local 24 heures sur 24, je pense pas qu'on va tomber dans des raves non plus la nuit. Là. Je pense pas que c'est ça l'idée, là, mais si on pouvait utiliser, maximiser le temps d'utilisation qu'on a, que ce soit avec des déjeuners, conférences, des brunchs la fin de semaine. Je regardais, on avait l'idée des cours de yoga à un moment donné qu'on regardait ici, là, qui était une idée qui a vraiment été étudiée longtemps. Fait que je pense que c'est ça dans les prochaines années. Maximisons le temps qu'on a. Assurons-nous qu'on a aussi du travail en masse pour dire, moi, je le dis souvent, je trouve ça plate que quelqu'un vienne porter son CV. Bon, c'est moins le cas maintenant. Là. Quelqu'un vienne porter son CV et qu'on dise, non, malheureusement, mon équipe est complète. Si on avait tous ces projets-là, on pourrait tout le temps en embaucher. Et puis, tu sais, ces gens-là, c'est peut-être eux qui demain matin deviendraient sous-chef, chef de cuisine, gérant ou directeur.
Ça
plus qu'on a de projets, plus qu'on va pouvoir en faire travailler des gens. Tu sais, je le dirais, moi, je l'ai souvent dit. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal dans la pandémie, c'est pas, tu sais, oui, tu perds ton quotidien, tu perds des projets, tu fais des petits deuils sur plein de choses, mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que moi, j'étais habitué de rentrer ici, puis que tout le temps, 50, 60 personnes, pendant une année et demie, il n'y a pas eu ça, tu sais, d'employer des gens que tu connais, que je connais leur famille, parce qu'ils viennent ici avec leurs parents, ils viennent ici avec leur chum, avec leur blonde, d'annoncer à tous ces gens-là qui ont dû être mis à pied pendant un bout, ça a été vraiment le beau temps. Tu peux pas travailler dans ce domaine-là si t'aimes pas le monde. Parce que c'est une business de monde.
Tu sais, moi, je t'ai devant les yeux, puis ça fait deux fois que je le dis, là, mais on voit vraiment que c'est vrai ce que tu dis, puis c'est, ça a l'air vraiment motivant de travailler ici, puis c'est super généreux, tu sais, tous les propos que tu fais, c'est très riche, là. Je suis certain que la relève qui écoute en ce moment sont comme, waouh, tu sais, tu as droppé beaucoup de diamants, tu sais, tu as droppé beaucoup de gems là, dans cet entretien-là. Puis, juste peut-être pour revenir sur ce que tu disais par rapport au brunch, juste une question.
Ouais.
Avec l'avenue et tout ça, est-ce que il y a. Si vous allez de l'avant avec des brunchs, est-ce que c'est, ça serait complètement signature menu cage ou il y aurait, tu sais, des cross...
Ben c'est un signature menu cage. Je ne vais pas tomber dans des technicalités.
Ouais, non.
Mais tu ne peux pas non plus quintupler le nombre d'items que tu as. Il faut réutiliser certaines formes. Là. Je vais te donner un exemple très, très, très facile.
C'est la bonne gestion.
Un fromage qu'on utilise dans des burgers pour être utilisé dans une omelette, c'est pas la recette d'un autre partenaire. T'sais, on peut pas complètement augmenter nos bottes de commandes parce que ça devient super dur. Les pertes augmentent à ce moment-là. Fait que c'est un menu qui a été fait ici. On a un bon réseau qui a été fait ici, qui a été fait à la cage là, avec Denis Dupuis, notre chef exécutif, qui a développé le menu cage. Puis aussi, c'était plus facile de merger, tu vas dans le brunch, peut-être que quelqu'un pourrait avoir le goût de manger quand même un Blitzburger. On avait une offre complémentaire qui cumule un petit peu les deux menus en même temps. Encore une fois, c'est très technique, là, mais nos stations en cuisine, nos équipements sont faits pour faire un menu cage. On ne peut pas complètement changer le menu, il faut être capable de cumuler les deux en même temps. Donc, c'était plus dans quelque chose.
Pas intéressant parce que, tu sais, on s'adresse, oui, aux entrepreneurs potentiels, chacun d'eux, mais aussi à des gestionnaires. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait... là, je me permets de rêver, là, tu sais, peut-être un truc qui n'a pas rapport, mais il y a tellement de potentiel avec la cage. Puis ça, il y a des étudiants qui vont rire en m'écoutant parce qu'ils m'ont proposé ça dans un autre cadre, là, mais qui ont dit, ben faire de la bouffe pour chien... On a la cuisine, on a ci, on a ça, mais brand des cages, ça marche-tu, ça marche pas? Dans les arénas, dans les gyms, faire une espèce de spin-off de menu de protéines, mais cage, je te dis n'importe quoi, mais tout ça, à un moment donné, il faut mettre les limites, non?
Ouais, il faut mettre les limites. J'adore l'idée de la bouffe pour chien.
Sérieux, hein?
J'avais jamais pensé en plus.
Martine et Jordan, je vous salue.
J'avais jamais pensé, je trouve ça vraiment bon. Ouais, il faut mettre les limites. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, on part tout du même principe. Combien d'efforts ça va nous prendre, combien ça peut nous rapporter. Ce qui demande trop d'efforts puis qui ne rapportera pas grand-chose, on le laisse aller. Parce que, tu sais, je m'en voudrais de ne pas souligner le travail exceptionnel que l'équipe de gestion ils font ici. Parce que c'est le fun de dire, tu sais, il y a des projets, il y a des choses, il y a une gestion de projet, du développement, tout ça. C'est ce qui est difficile ici, c'est que c'est un restaurant qui roule beaucoup. Il n'y a pas de bureau non plus. Donc, on s'installe le matin sur une table, puis à partir de 11h30, il faut serrer nos ordinateurs, puis on les ressort le lendemain matin, parce qu'il y a des clients à longueur de journée. Il y a des employés qu'il faut leur parler. C'est très, très difficile de cumuler un petit peu les deux en même temps.
T'as pas de bureau? Sérieux, je t'accorde.
Il y a un bureau,
je suis pogné là-dessus encore.
Je t'ai fait visiter tantôt. Il y a un bureau qui est grand comme un garde-robe ici.
Okay.
Donc, on a fait mettre une porte coulissante, parce que sinon, on ne pouvait pas ouvrir et fermer la porte s'il y avait une chaise dedans. Donc, le pied carré ici est vraiment un enjeu. Assez intense quand même. Donc, je te dirais que c'est sais, il y a tout cet équilibre-là, puis être capable de gérer ça. Fait, des fois, on aimerait que ça avance plus vite, les projets, mais ça n'avance pas tout le temps parce qu'il y a des opérations, il y a des humains au travers de ça, il y a le lieu physique. Donc, c'est là vraiment qu'il faut voir combien d'efforts ça va nous prendre. C'est-tu réellement, potentiellement, y a-tu un gros gain à faire? Puis on choisit à ce moment-là les projets qu'on va faire en fonction. Celle-là, ça demande un effort qui a de l'allure avec un gain potentiel intéressant. On va le faire. C'est comme ça que les branches ont été décidées.
Fait que t'as quand même une grille de lecture, une grille de critères un peu plus informels peut-être en disant tu réfléchis ça oui, ça plus tard. Tu fais ça dans ton plan de match annuel, quoi? Comment tu.
Ouais, ben j'utilise un gestionnaire là, qui s'appelle Smartsheet. Il y en a plein qui sont bons, là, il y en a peu importe lequel. Là. Puis on sort des idées. Puis tu te dis, Yana, j'ai des trucs que j'ai inscrits il y a 5 ans qu'on n'a pas fait encore. Tu dis, à m'amener cette idée-là, quand j'aurai la bonne personne, quand j'aurai le bon fit, quand j'aurai la bonne. Conjoncture, quand je l'aurai, ta garde dans ta poche en arrière, puis un jour tu vas l'avoir, mais il y a un roulement de personnel aussi, il y a plein de choses là-dedans, il faut que tu vois. C'est ce qui est important, moi je pense, qui est la clé, c'est que c'est beau de développer, c'est beau de vouloir faire d'autres choses, mais si ton jeu de base n'est pas bon, ben, ça ne sert à rien parce que tu te développes, mais tu t'arrêtes de. Le gain que tu vas aller chercher là, tu l'as peut-être perdu dans ce qui est ton core business, tu sais. Fait qu'on on s'assure, puis je suis le premier à dire, c'est drôle parce que moi j'ai coaché au football pendant 12 ans, puis au collège Notre-Dame, tu sais, souvent on avait une très très bonne équipe, on a fait plein de choses, on avait un groupe d'entraîneurs qui était très très créatif, très très novateur quand même, là. Puis des fois on arrivait, puis Jean-Philippe, notre entraîneur, il disait, non, là, je dis là, ça sert à rien d'avoir 240 jeux, ça sert à rien d'avoir les meilleures stratégies, si on n'est pas capable de lancer un ballon, l'attraper, puis plaquer. Fait que dis là, on va recommencer la base, parce qu'on fait pas bien la base. Vous allez me couper, moi puis Martin, qui était coordinateur, vous allez me couper votre nombre de jeux de moitié, puis on va revenir à bien faire la base. Puis souvent, je me remets dans le rôle de Jean-Philippe, puis des fois ici, là, des gens m'arrêtent plein de projets, je dis « OK, c'est bon. » Mais là, présentement, à l'accueil, on fait ça 6 sur 10, on peut peut-être se rendre à 8, puis nos serveurs ne connaissent pas bien leur menu, fait qu'on va donner des formations. Faut souvent des fois mettre les freins un peu pour dire « Ce projet-là, il est bon, là, dans 6 mois, on va être rendu là. » Mais pour l'instant, notre base n'est pas assez forte. C'est frustrant à faire.
Mais en même temps, il faut le faire quand même. C'est ton rôle, j'ai l'impression. Puis quelle belle façon de terminer, je trouve, ce podcast-là avec cette analogie sportive. On est à la cage, ça fit à fond, super intéressant comme parallèle. De te voir un peu comme un coach, c'est hyper pertinent, je trouve, ici. Et as-tu peut-être une phrase de fin qui peut... rester une bouteille à la mer qui va rester impérissable.
À la mer, ben écoute, moi je.
À part les mardis, l'invitation,
non,
là.
Non, mais j'inviterais les gens, moi, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais dans l'ensemble des gens du PHQ, souvent il y a des gens qui cherchaient des stages, des trucs. Je trouve que les gens se tournaient pas vers les chaînes quand même. C'était pas tout le temps permis, des fois ça l'était.
C'est vrai.
Mais je dirais que c'est quand même un domaine, il ne faut pas le regarder des fois de haut. C'est un domaine où j'essaie. C'est une des choses qui m'intéressait de participer à ce podcast-là pour dire que tu n'arrives pas ici pour ouvrir et fermer la porte parce que tout est décidé d'avance. T'sais. On en a de la latitude, on peut faire des choses. On veut s'entourer d'un maximum de gens intelligents pour leurs idées, justement, puis pour leur capacité à faire évoluer ça. Fait que moi, je dirais, regarder toutes les possibilités, ça peut être intéressant quand même.
Guillaume, vraiment, voilà, vraiment intéressant. Puis je finis avec une question qui n'a pas rapport. Tu es un fan de sport. Y a-tu un moment sportif qui t'a marqué, là, juste pour conclure un peu là-dessus? Là?
Ici, moi, je suis un très gros fan des 49ers de San Francisco. C'est sûr que le Super Bowl, il y a 2 ans, quand ils ont perdu, c'était le fun. Mais le premier Super Bowl qu'on a fait ici, au moment où on a ouvert, Laurent Duvernay-Tardif est venu ici.
OK.
Puis, il était ici avec la cage, son agent avait des lits qui venaient ici, tout. Puis normalement, ces gens-là, souvent, tu sais, bon, c'est une affaire de PR, puis il y avait des entrevues télé. Puis nous, j'avais invité une cinquantaine de mes anciens joueurs, des gens de football. Ben, la cage était remplie de monde qui connaissait le football, puis de gens qui étaient sur le party quand même un peu. Puis il y a eu du fun, il est resté, puis il est resté jusqu'à la fin. L'année d'après, la cage l'avait réinvité, puis il a dit si je viens, juste au complexe que je suis allé. Puis ça. Je me souviens de cette soirée-là. Honnêtement, c'était vraiment cool. J'ai moi qui tripe sur le football, j'ai pu jaser avec en prenant une bière de plein d'affaires. Il est super authentique, il était super généreux. Fait que ça, je te dirais que c'était un moment, là, comme pour moi, le Super Bowl, c'est le moment le plus fun de l'année. de le faire avec un joueur de la NFL. En plus, je me souviens, les Patriots avaient gagné le Super Bowl cette année-là. Ils avaient pris une coupe de bière. Puis il m'expliquait comment il détestait les Patriots qui gagnaient.
Exclusivité!
Mais dans le fond, il les détestait, mais le rêve de tous les joueurs, c'était d'être dans leur position, ouais, de gagner ça. À tous les ans. Puis c'est pour ça qu'ils haïssaient. Ouais. Fait que non, c'est vraiment. Je te dirais que c'est un des plus beaux souvenirs.
Hey, mais ça, voilà. Ça finit super bien. Guillaume, merci pour ton temps, pour ta générosité. Merci beaucoup, mec. Merci.
Cool.